Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais revenir sur un sujet que j'avais déjà traité au mois de mai, mais on me dit que c'est particulièrement d'actualité et qu'il faut le faire, à savoir les fortes chaleurs avec ces températures caniculaires du mois de juin, qui donc m'ont convaincu de me répéter un peu, mais vous n'avez probablement pas en tête cette chronique qui date de plus d'un mois. Donc je vais rappeler certaines obligations. Alors cela s'adresse aux travailleurs salariés du privé, mais aussi à ceux de la fonction publique. Et je le dis d'autant plus que le gouvernement se refuse à prendre de vraies dispositions et se contente donc de bavarder sans aller au cœur du sujet, c'est-à-dire des dispositions concrètes. Sa stratégie, comme celle des patrons, est de ne citer que la période caniculaire. On va voir que les textes ne disent pas ça du tout, les obligations. Que de citer essentiellement le comportement personnel, on a tous compris qu'il fallait boire beaucoup, et de ne citer que certaines professions comme le BTP par exemple, alors qu'il y a bien plus de personnes concernées. Il ne faut pas oublier tous ceux qui travaillent avec du matériel chaud dans l'industrie, auprès des fours, etc. Idem pour ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire, sans que l'on soit nécessairement d'ailleurs en période caniculaire. Or, c'est précisément un des gros défauts du décret sorti en 2025 qui réduit les affaires. Il ne s'intéresse qu'aux épisodes de canicule indiqués par Météo France, comme si dès lors que la température devient élevée, on était obligatoirement en période de canicule, ce qui n'est pas le cas, notamment, comme je viens de le dire, quand on travaille avec du matériel chaud. Et d'ailleurs, si on regarde où se situe la majorité des victimes d'accidents du travail liés à la chaleur, les années passées, on regarde statistiquement, eh bien, elles n'étaient pas en majorité dans les plages horaires données par Météo France comme étant caniculaire. Voilà donc la belle affaire. Donc je reviens sur ce que vous devez savoir en toutes circonstances. Même si le gouvernement ne veut pas donner de chiffres de température acceptables au travail, il ne veut pas en parler de ça, il y a tout de même l'Institut national de recherche sur la sécurité et la santé au travail, l'INRS, qui nous donne des repères. Les repères ne sont d'ailleurs pas récents. En l'occurrence, elle dit que la situation devient dangereuse pour un travail physique au-delà de 28 degrés et pour un travail sédentaire au-delà de 30 degrés. Donc on a au moins cette référence donnée par un organisme officiel. Et en toutes circonstances, l'employeur doit prendre des mesures pour protéger la santé des salariés, que ce soit d'ailleurs face au froid, ce sont les mêmes obligations. Alors, dans les locaux, il y a une série d'obligations, mais y compris à l'extérieur. Dans le Code du travail, on va retrouver donc toute une série d'obligations pour les locaux sur le renouvellement de l'air, sur le rayonnement solaire pour s'en protéger, sur la fourniture d'eau fraîche, sur l'obligation de donner la priorité à la manutention non manuelle, c'est-à-dire automatique, et donc la manutention manuelle, elle ne doit se faire que par défaut. La charge physique doit être proportionnée à la situation. C'est le code du travail. On ne peut pas vous demander d'en faire autant que s'il faisait 20 degrés. Il est possible, mais seulement pour les travailleurs du BTP, d'utiliser le dispositif particulier des intempéries, ce qu'on appelle la caisse des intempéries, qui permet de recevoir une rémunération quand la situation est particulièrement mauvaise face aux intempéries. Mais ça, c'est uniquement, j'ai dit BTP, c'est uniquement d'ailleurs travaux publics. Il y a cette obligation de mise à disposition d'eau fraîche et en quantité suffisante. En ce qui concerne les horaires du travail, ils peuvent être adaptés, mais en respectant toutefois une concertation minimum avec le personnel ou avec les délégués, si vous en avez. À ce sujet, faites attention tout de même qu'on vous glisse pas un système d'annualisation, à savoir que vous devriez récupérer des heures non effectuées plus tard. Donc c'est pas ça le principe. L'employeur peut modifier les horaires, mais il peut pas en profiter pour vous renvoyer à la maison en vous disant que vous travaillerez davantage les semaines ou les mois suivants. Faites attention à ça, puisqu'on a eu quand même quelques alertes. Il y a toute une série d'obligations de protection face aux intempéries en ce qui concerne toutes les professions. Et il y a le cas du malaise, voire pire qu'un simple malaise. Il doit être obligatoirement déclaré en accident du travail. Et je le dis d'autant plus qu'un malaise peut dégénérer, malheureusement, ce qu'on appelle le coup de chaleur, qui dans 15 à 25% des cas donne lieu à un décès. Donc pensez aux séquelles et pensez à ce que ce soit bien enregistré en accident du travail. J'insiste d'autant plus que les chiffres officiels ne correspondent pas du tout à la réalité en ce qui concerne les malaises, donc les statistiques qui n'indiquent que quelques malaises en cette période de canicule ne correspondent pas à la réalité. Donc il faut absolument être déclaré en accident du travail en cas de malaise. Enfin, je rappelle que tout salarié a le droit d'utiliser ce qu'on appelle la procédure de droit de retrait en cas de danger grave et imminent, s'il estime qu'il est dans ce cas de figure. Il y a plusieurs exemples d'utilisation du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, et vous avez peut-être entendu ces jours-ci dans les médias, par exemple, les chauffeurs de bus à Paris qui menacent d'utiliser leur droit de retrait, puisque finalement, on ne leur a pas mis à disposition des conditions qui permettaient d'échapper finalement assez forte chaleur, et un conducteur de bus a minimum une cinquantaine de personnes derrière lui. Donc si le conducteur de bus fait un malaise, ça peut être gravissime. Donc une illustration parmi tant d'autres de la possibilité d'utiliser son droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Avant de terminer, je voudrais citer un piège. Ne vous faites pas avoir avec des méthodes compliquées pour ne pas prendre comme seule référence la température. Alors, il y a des systèmes compliqués avec des calculs invérifiables en prenant en compte la vitesse du vent, le taux d'humidité et pourquoi pas l'âge du capitaine. En fait, ce sont des méthodes avec ces critères ajoutés qui permettent de rendre la situation invérifiable, de gagner du temps et au bout du compte de ne rien faire. Voilà, donc restez donc sur votre appréciation de la situation et sur la température plutôt que de chercher des choses qui vont compliquer la situation et qui vont n'entraîner que la polémique et pas la résolution du problème. Alors il y a un indice qui s'appelle l'indice Humidex qui fait partie de ces méthodes, qui prévoit, selon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'âge du capitaine, qu'on pourrait travailler avec 45 degrés de température et que ce ne serait pas anormal. Donc restez-en à la température, ne vous faites pas emmener sur humidité, rayonnement solaire, vitesse du vent, j'en passe et des meilleurs. Je voulais d'ailleurs signaler que la CGT revendique un seuil de 28 degrés pour le travail physique et de 30 degrés pour le travail sédentaire. C'est tout bêtement les indications de l'INRS que j'ai citées tout à l'heure. Cela a au moins le mérite d'être un seuil vérifiable. En cas de difficulté, vous pouvez bien sûr contacter vos délégués si vous en avez, le syndicat de votre choix ou l'inspection du travail. Voilà ce que je voulais vous dire et même redire, puisque j'avais déjà fait une chronique de ce genre-là il y a un mois, mais il m'est apparu que c'était particulièrement judicieux. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.